Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas, si la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux crimes racistes en France dans les années 70. Et pour parler de ce sujet éminemment d'actualité, puisque les crimes racistes existent toujours en France aujourd'hui, nous sommes avec Hakim, rédacteur d'articles sur ce sujet pour le site et le collectif Agitation Autonome. Donc bonjour Hakim.
Oui, bonjour.
Alors du coup, dans tes articles sur Agitation Autonome qui traitent de ce sujet, et plus particulièrement d'un qui était vraiment concentré sur ce sujet, donc tu rappelles l'importance des crimes racistes en France dans les années 70, qui, loin de relever de quelques faits divers de l'ordre de un ou deux par an, en réalité, il y a eu effectivement un phénomène social massif, notamment qui s'est... cristallisé autour de l'été 73,
ouais.
Été 73, où il y a eu là, pour le coup, des dizaines d'assassinats de personnes racisées arabes, plutôt.
Voilà. Maghrébins, quoi, des Nord-Africains.
Des Nord-Africains, du coup, particulièrement dans la région de Marseille, dans le Midi, sur la Côte d'Azur. Mmh. Alors, du coup, est-ce que peut-être. Pour qu'on comprenne un petit peu dans quel pourquoi ces crimes racistes ont lieu à ce moment-là, pourquoi de manière si massive, ouais. Peut-être il faut rappeler un petit peu le contexte de la France après les années 68, et puis aussi une France du coup qui est post-coloniale, dans le sens où il y a eu d'une certaine manière la décolonisation de l'Algérie, mais qui évidemment, comme l'a montré par exemple l'historien Todd Shepard, a continué de marquer énormément l'histoire de France, notamment par exemple, c'est pas un hasard si une grande partie de ces crimes racistes ont lieu sur la Côte d'Azur, puisque c'est la région qui concentre le plus de pieds noirs.
Oui, exactement. Tu fais bien de commencer par là. Les pieds noirs, quand ils sont revenus d'Algérie, ils sont installés directement là, dans le sud de la France. Voilà, c'est ce qui explique effectivement que ça ait lieu là. Et au niveau de la date, par exemple, 73, pourquoi est-ce qu'en 73, il y a eu autant d'événements de ce type? C'est parce que fin 72, on a les circulaires Marcellin-Fontanais sur l'immigration. Marcellin, c'était le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, et Joseph Fontanais, c'était le ministre du Travail. Et à ce moment-là, il passe une circulaire pour restreindre l'immigration sur le territoire français, pour la restreindre à son strict minimum, parce qu'effectivement, avant cette date, il y avait un accueil de la main-d'œuvre immigrée, parce qu'il y avait des besoins, hein, les patrons avaient besoin d'une main-d'œuvre immigrée, donc ils l'accueillaient à bras ouverts, très mal, mais ils l'accueillaient, ils étaient pour que cette main-d'œuvre arrive en métropole. Après 72, c'est terminé, on ferme la boutique parce qu'on n'a plus besoin d'eux, et ceux qui restent encore sur le territoire, on va leur mettre des balles dans la tronche parce que faut qu'ils disparaissent tout bêtement.
Oui, et en plus, il y a à ce moment pas mal de choses qui se cristallisent. Donc, il y a d'une part le fait qu'effectivement, comme il y a la crise du capitalisme fordiste et la restructuration du capitalisme français en cours, on a effectivement moins besoin des ouvriers spécialisés qui étaient majoritairement des immigrés.
Oui.
Ça, c'est voilà, d'une part. D'autre part, il y a également le fait que dans ces années-là, il y a une crainte politique qui est que, qui est le principal adversaire politique du pouvoir à ce moment-là, ce sont les maoïstes notamment. Mmh. Et ces maoïstes, ces gauchistes, eux, comme principal sujet révolutionnaire potentiel, ouais, ils voient les ouvriers immigrés,
ah, oui, oui,
non pas tellement parce qu'ils auraient conscience des enjeux, qu'il y a une domination raciste, mmh, qui soit différente quand même de celle du capitalisme,
mais qui en fait partie.
Qui en fait partie.
Qui en fait part. Pour moi, c'est l'un fait foncièrement partie de l'autre. Le racisme, c'est le capitalisme et inversement. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre.
C'est ça. Donc, il y a une dimension structurelle au racisme dans le capitalisme.
Bah, oui. Puis inversement. Enfin, pour moi, c'est les deux faces d'une même médaille. Les ouvriers spécialisés, comme tu l'as dit, sont en majorité des immigrés. Alors, pas forcément que ceux des anciens des anciens colonisés. Hein. On pouvait y trouver des Espagnols, notamment des Portugais, des Polonais, des Italiens, etc. Et aussi des jeunes Français qui n'avaient pas de qualification. Parce que c'est ça, un ouvrier spécialisé, c'est un ouvrier qui n'a pas de qualification, pas de diplôme. Et il faut savoir aussi une chose qui est importante, c'est que même la majorité des ouvriers, par exemple à Renault-Billancourt à cette période-là, étaient des ouvriers spécialisés. À Renault-Billancourt, c'était 70% du personnel ouvrier qui était spécialisé, c'est-à-dire sans qualification. Et sachant que les ouvriers qualifiés, eux, pour leur part, sont quasiment tous Français. Mais il n'y avait pas que des immigrés dans le secteur des ouvriers spécialisés. Même si la quasi-totalité des immigrés, en particulier les anciens des colonies, eux par contre étaient ouvriers spécialisés puisqu'ils n'avaient pas accès à la qualification professionnelle dans leur pays d'origine.
Oui, d'une certaine manière, il y a une sorte de division racialisée du travail pendant les Trente Glorieuses. Oui. Effectivement, on oublie beaucoup que le compromis fordiste s'est fait notamment sur le dos des immigrés et des femmes.
Bah, évidemment, oui, tout à fait, évidemment.
Oui, et justement, ce compromis fordiste, il se fissure justement dans les années post-68 parce qu'il y a la révolte des ouvriers spécialisés, notamment immigrés, s'agitent d'une part sur des bases autonomes qui ont participé à 68, comme par exemple Xavier Vignal a montré dans un article qui a été publié dans l'histoire politique des immigrations postcoloniales, un très bon ouvrage sur lequel tes articles s'appuient notamment. Et donc du coup, ces ouvriers migrés qui dès 68 sont perçus comme une menace, là il y a la menace en plus qu'ils soient organisés politiquement par les gauchistes et les maoïstes, et qu'ils menacent directement le pouvoir post-gaulliste, oui, celui de Pompidou.
Exactement. Oui, parce que, par exemple, en 73, si tu te souviens bien, il y a eu des manifestations contre un meeting d'ordre nouveau. Hein, c'était à la mutualité, et à ce moment-là, ce même Marcelin a dissous Ordre Nouveau, mais a aussi dissous la Ligue communiste. Bref, il a dissous et un groupe gauchiste et Ordre Nouveau, parce que voilà, pour lui, c'était du même acabit de protester contre le racisme et de faire des meetings racistes, tout en sachant que la politique du gouvernement allait dans un sens raciste.
Évidemment, il y a aussi, Sheppard le montre aussi dans son dernier ouvrage qui s'appelle « Mal décolonisation ». À partir de 68, finalement, les technocrates gaullistes, etc., s'approprient le discours de l'extrême droite française qui, après 62, après la défaite historique de l'Algérie française et de l'OAS, a commencé à pointer la menace d'une invasion algérienne de la France. Et beaucoup de discours obsédés sur... on a déjà presque un peu les prodromes de la théorie du grand remplacement, quoi.
Oui, c'est inhérent au fait colonial, hein, de toutes les façons, parce que même avant l'indépendance, ce discours-là, il était déjà valable. Dès avant l'indépendance, les restrictions sur l'immigration existaient. Ce qu'on appelait les indigènes musulmans n'avaient pas forcément la libre circulation entre leur pays et la métropole. Ça dépendait du bon vouloir des pouvoirs en place. Donc la théorie du grand remplacement, c'est lié à la colonisation, hein, un passé qui passe pas parce qu'il n'a pas intérêt à passer.
Et par rapport à ça, justement, il y a également le fait que dans ces années 70, il y a, comme il y avait du temps de la colonisation, un très fort encadrement répressif de la force de travail immigrée, avec notamment les foyers Sonacotra, qui sont des lieux de lutte très importants dans ces années-là, et qui finalement montrent bien qu'il y a une tendance à voir les immigrés comme une menace, une menace politique, donc comme potentiel agent de subversion gauchiste, révolutionnaire, une menace sociale dans les usines, parce que participant des révoltes contre le travail, et puis également une menace sexuelle, hein, comme l'a montré par exemple Todd Shepard, où il y a une espèce d'obsession sur les Arabes, violeurs, etc., dans plein de discours racistes de cet acabit, dans ce moment-là, et notamment un moment qui est important quand même dans cette histoire des crimes racistes, c'est l'assassinat en 1971 à la Goutte d'Or.
Ouais, de Jilali Ben Ali. Exactement, oui, tout à fait. Ça a été un épisode marquant, mais disons que c'est pas. Je pense pas que ça signe le. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça a marqué les esprits plutôt que d'autres. J'ai le sentiment que ça a été médiatisé parce que certains groupes militants ont repris à leur compte un peu ce crime-là. C'est comme aujourd'hui, pour certains crimes racistes, t'as beaucoup de bruit, et pour certains autres, tu n'en as pas du tout. Ça, c'est lié au fait que ça intéresse ou non la sphère médiatique. Et certains groupes qui ont un certain pouvoir. C'est ça aussi.
Ouais, en l'occurrence, j'imagine que là, c'était lié notamment au fait qu'il y a beaucoup d'intellectuels gauchistes comme Michel Foucault et Jean-Paul Sartre.
Oui,
et c'est aussi, et c'est la grande époque du gauchisme en France, quoi, du maoïsme. Et du coup, il y a une espèce de fascination un peu bizarre, d'ailleurs, il faut bien le dire, des gauchistes pour la figure du travailleur arabe qui est essentialisée et portée sur un piédestal. Bon, évidemment, ce qui est assez critiquable quand même.
Oui.
Et du coup, il y a effectivement un intérêt parfois un peu disproportionné.
Le MTA, à la base, le mouvement des travailleurs arabes, ça vient des comités palestiniens, hein, comité de soutien à la révolution palestinienne. C'est de ça que ça vient. Et c'est quand les travailleurs, notamment tunisiens, marocains, un peu moins algériens, mais bon, maghrébins, quoi qu'il arrive, se sont dit, la Palestine, c'est bien, mais ici, c'est nos conditions de vie, ici en France, elles passent peut-être avant, ou en tout cas, il faut au moins autant en parler que le coup de la Palestine, tu vois.
Ça montre bien comment est-ce que finalement les travailleurs arabes commencent à se défaire un peu des problématiques gauchistes et anti-impérialistes qui sont concentrées sur des enjeux soit lointains, soit sur une espèce de mythification, et à se dire, non mais en fait, il faut qu'on s'auto-organise, nous, face au racisme et face à l'exploitation capitaliste.
Évidemment, enfin, parce que le sujet de la Palestine, c'est quelque chose que même les régimes arabes ont tendance à instrumentaliser, quoi. Donc effectivement, certains travailleurs immigrés ont exporté ça vers la France, mais l'un des coups d'éclat, si on peut dire, du MTA, c'est la grève contre le racisme de septembre 73, qui a eu lieu dans plusieurs villes de France. Alors pas le même jour dans chaque ville, hein, il y avait tel jour à Marseille, tel autre jour à Toulon, tel autre jour en région parisienne. À Marseille, il y a eu quand même un franc succès, parce que t'as eu, si je me souviens bien, t'avais 100% des travailleurs de la Ciotat, chantier naval de la Ciotat qui avait cessé le boulot, presque 70% à Aix-en-Provence. Sur Paris, ça a été beaucoup moins suivi, ça a été surtout suivi par les commerces de Belleville, de Barbès, par certains travailleurs à Billancourt par exemple, ou dans d'autres entreprises, hein. Mais l'action du MTA, c'est ça, par rapport à la problématique des travailleurs immigrés.
Ouais, ça a été un peu la première grande grève générale contre le racisme en France.
Grève générale, c'était pas une grève, ça a pas. Eux disent que c'est, mais même eux savent très bien que ça n'a pas été général comme grève. Mais ça a été un mouvement pas mal suivi et qui a eu un petit écho. D'ailleurs, ça c'est quand tu regardes la préfecture de police, ça fait, il y a des archives qui sont accessibles sur le sujet. Les RG se sont intéressés bien évidemment à cet événement, et quand ils parlent des travailleurs immigrés, ils parlent de masse musulmane. C'est intéressant, ce qualificatif-là est intéressant parce que c'est très très colonial, très très paternaliste, hostile et tout ça. Donc ça veut dire que les institutions ne sont pas passées à côté d'un tel événement.
Oui, donc du coup, d'une certaine manière, c'est annonciateur du traitement notamment politique et médiatique des grèves du coup des années 80 de Talbot-Poissy, où ils vont être là dépeints comme des ouvriers musulmans, tout ça parce qu'ils réclament notamment, parmi leurs multiples revendications, une salle de prière.
C'était la dernière revendication. C'était justement celle qui était le moins mise en avant, celle qui était ce qui était le plus mise en avant dans les années 80, c'était non au licenciement. Non au licenciement, non à la fermeture de l'usine, oui à un salaire égal, oui à des conditions de travail décentes, stop à la médecine maison. Et en toute fin, une salle de prière pour ceux et celles qui en ont désir. Et les médias ont porté leur attention sur ça. Parce que pour tous des prétextes fallacieux, bon, voilà, il y avait eu la révolution islamique en Iran, là, ce qu'on avait appelé la révolution islamique qui faisait peur à l'Occident. Gaston Defer, qui était ministre de l'Intérieur, a parlé, en parlant des grèves de Talbot-Poissy, il avait parlé de grèves saintes organisées par des intégristes, des musulmans, des chiites. Là, faut aller la chercher, celle-ci, pour surtout pas parler du combat des travailleurs immigrés. On a ressorti le truc religieux. Mais parce que dès la colonisation elle s'appuyait sur une discrimination se fondant sur la religion supposée des colonisés. En 1834, quand les Français arrivent en Algérie, ils déclarent les Algériens indigènes musulmans, sujets français. Ça, c'est la réalité du problème. Parce que c'est ça, pour les Français, on parle de guerre de religion et de race, de croisade. Mais on parle à aucun moment de problème politique concret. Non, c'est une race, une religion qui doit affirmer sa supériorité par rapport à l'autre.
Bien sûr. Ouais. Et justement, ça, c'est important pour comprendre le contexte dans lequel les crimes racistes ont été commis dans les années 70, c'est-à-dire qu'il y a toute une atmosphère raciste, il y a des discours publics racistes de la part des autorités, il y a également une police extrêmement raciste, comme par exemple Maurice Rachus l'a montré dans ses différents travaux, ouais. et d'autres, hein, jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Hein. Et notamment du fait qu'il y a quand même beaucoup de ces policiers qui sont soit d'anciens pays noirs, soit qui ont fait la guerre d'Algérie. Donc évidemment, il y a une dimension...
Dans le sud, en tout cas.
Coloniale.
Dans le reste du territoire, c'est moins évident. Mais dans le sud, oui, c'était évident. À Marseille, c'était dans la police, t'avais les pieds noirs et les corses. C'était les deux groupes qui composaient les services locaux.
Ce qui explique qu'il y a aussi beaucoup de crimes racistes policiers durant les années 70.
Encore une fois, il faut que les gens comprennent que, je pense que tu l'avais bien dit au début de l'émission, c'est que ce n'est pas des incidents isolés. À partir du moment où le gouvernement met sur le tapis des circulaires racistes, forcément ça va chauffer. Et ça va chauffer partout sur le territoire, et ça va chauffer chez les pieds noirs, y compris comme chez ceux qui ne l'étaient pas. Bon, après, voilà, il s'est trouvé qu'à Marseille, vu le contexte, ça a touché des anciens pieds noirs. Et évidemment, la police, voilà, la police a joué parfaitement son rôle de chasseur.
Ils ont à la fois laissé faire et à la fois ils ont encouragé. Et en même temps, ils ont parfois perpétré.
Bah, oui, évidemment. Oui. Et puis, le gros danger, c'est encore un aspect du problème. C'est le passage aux oubliettes des crimes et l'impunité. C'est très important.
Oui, ça, il faut revenir là-dessus, je pense, sur l'impunité.
Oui. Et puis même, faudrait revenir, tu vois, parce que sur un autre aspect que j'ai traité dans l'article, qui est la prison clandestine d'Arinc. Ouais, il y a eu pendant plus de 10 ans, tu as eu une prison pas déclarée sur le territoire, une sorte de... presque une prison secrète. Alors, qu'est-ce que c'était que ce dispositif ? C'était à Arinc, hein, sur le port d'Arinc, à Marseille. Il y avait une prison pour étrangers. C'est-à-dire que voilà, on chopait quelqu'un qui avait pas ses papiers, boum, on le collait là-dedans, autant de temps qu'on avait envie, avant de le renvoyer dans son pays. Dans l'article, j'en parle en détail, hein, interdiction de se balader quelque part, tu sors pas de la cellule, ça peut durer des semaines, t'as rien à manger ou presque, le chauffage il marche pas, enfin c'est l'apocalypse. Il a fallu que le journaliste, tu vois, qui a écrit le bouquin Les dossiers noirs du racisme, Alex Panzani, fasse une enquête sur le sujet. Mais il a fait une enquête, c'est du hasard s'il est tombé sur cette prison-là.
C'est une prison qui était dans un hangar, c'est ça ?
Ouais, exactement. C'était dans un hangar désaffecté que la Chambre de commerce et d'industrie des Bouches-du-Rhône avait cédé au ministère de l'Intérieur.
Et encore un symbole colonial, puisque on sait le rôle que les chambres de commerce ont joué dans le commerce France-Algérie colonial.
Oui. Oui, puis au-delà de ça, c'est preuve que... Voilà, quand on parle de théorie, l'État, le capital, bah voyez ce que ça fait. La chambre de commerce qui file un truc au ministère de l'Intérieur. Donc, tu vas me dire, la chambre de commerce, c'est quelque chose, ça relève du ministère, de je sais pas quoi, de l'économie sans doute à la base. Bon, mais voyez les services qui sont capables de se rendre mutuellement.
Mmh, bien sûr.
Et la prison d'Arinc, quand l'affaire a été portée et qu'il y a eu un débat à l'Assemblée, enfin il y a eu une question à l'Assemblée nationale qui a été soulevée, me semble-t-il, en 75 avec le ministre de l'Intérieur Poniatowski. Il est arrivé, il a dit, mais en France, ce n'est pas une prison clandestine, c'est un centre d'hébergement pour étrangers en situation irrégulière. Nuance ! Bon, bah, nuance, quoi, ouais. Le truc a continué à fonctionner jusqu'en 81, date à laquelle Gaston Defer, donc, qui venait d'arriver ministre de l'Intérieur avec l'élection de Mitterrand, a légalisé la prison d'Arinc en faisant un centre de rétention. Centre de rétention qui a été en service jusqu'en 2006.
Oui, voilà. Comme aujourd'hui, on parle de centre de rétention administrative pour ne pas dire prison.
Oui, mais puis même si t'en parles comme ça, ça change quoi au problème ? C'est pas légitime d'enfermer des personnes dans ces trucs.
Bien sûr, bien sûr.
C'est tout.
Bien sûr.
Donc t'appelles ça centre de rétention, prison, cachot, cabane, peu importe, ça devrait pas exister.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, mais ça, disons que ça sert à masquer, disons, une réalité qui est de l'enfermement arbitraire, quoi.
Bah oui, 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 tout à fait.
Et justement, on a parlé un petit peu donc de ces crimes racistes qui sont très nombreux. Est-ce qu'on peut peut-être en décrire un ou deux qui sont, disons, particulièrement symptomatiques et puis aussi de leur traitement judiciaire?
Oui, alors il y a eu par exemple Adjlounès, 16 ans, boum, qui a été assassiné boulevard de la Madraille. Bon, première chose, hein, les médias évidemment et la police l'ont décrit comme un dealer, voleur de bécane, donc bah, bien fait pour sa tronche. Alors l'enquête de police... bâclé complètement, à tel point que quand les enquêteurs sont venus, il y a un inspecteur qui a regardé les douilles de l'arme qu'il avait utilisée, il les a ramassées à main nue. C'est-à-dire qu'il n'a même pas peur de mettre son ADN là où il a surtout pas à être, quoi. Donc voilà, pas de problème, l'enquête piétine, il se passe rien, puis le frère de l'Adjlounès fait sa propre enquête de son côté, il est bien obligé puisque la police n'en fait pas. Et il va voir un adjudant de gendarmerie, l'adjudant de gendarmerie lui dit « je vais m'occuper du problème », et puis eh ben, l'adjudant de gendarmerie a mis la main sur un pied-noir d'Algérie qui était dans la police, un brigadier. La police va arrêter ce gars-là un an et demi après les faits. Et bon, bah pas de bol, il est mort en prison le gars, pendant sa détention provisoire. Mais ça c'est un symptôme, ça, évidemment la police tue, tu crois qu'elle va faire des enquêtes concrète sur le sujet. Et puis t'avais qu'est-ce que je peux citer comme exemple, du nom du travailleur assassiné, je crois que c'était Saïd Rilas, qui se fait tuer vers 5h du matin. Et en fait ce qui se passe, c'est que bon, déjà bien sûr le juge ordonne un non-lieu, le juge Joseph Sanguinetti ordonne un non-lieu parce qu'on n'a pas que ça à faire, première chose. Et seconde chose, la famille a demandé à ce que l'accident soit considéré comme un accident du travail, sachant qu'il allait au travail. La victime allait au travail. La CPAM fait sa petite enquête et puis cour d'appel dit bah oui mais non, comprenez, personne en question, elle est sortie de chez elle trop tôt pour aller à son travail, hein, il était 5h, elle commençait le travail à 7h, elle avait rien à faire dehors, si elle était dehors c'était pour aller au bidonville voisin, pour aller satisfaire son penchant pour la boisson. Donc pas d'accident du travail, pas de prestation pour la famille qui perd son seul soutien. Et du coup, bah, voilà, vous avez un mort et la misère en plus pour bien vous enfoncer.
Ouais, non, mais c'est là où on voit effectivement le mépris raciste de la justice.
Oui, 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 parce que c'était considéré comme normal. Si on les avait tués, c'était qu'ils l'avaient mérité, c'est qu'ils avaient troublé l'ordre, c'est qu'ils avaient emmerdé les honnêtes citoyens. Il y a une affaire où, c'est le patron qui est venu directement mettre une balle dans la tête à son travailleur. Bah oui, écoute, il avait fait une grève, le gars. Ça va pas ou quoi ? On fait pas de grève, hein ? Boum ! Voilà, oui. Les travailleurs immigrés, ils faisaient des grèves parce qu'ils avaient besoin d'en faire. C'est tout, c'était une question de survie. Et quand tu fais des grèves, bah tu t'opposes à l'État. Et quand tu t'opposes à l'État, bah tu finis pas très bien, souvent.
Ouais, ouais, effectivement, on voit que finalement, une grande partie de ces crimes racistes n'ont pas été visibilisés médiatiquement et politiquement, à part dans des petites sphères restreintes, voilà, gauchistes, ouais. Etc. Et encore, voilà. et en même temps qu'ils ont été largement impunis, comme au temps, finalement, de la colonisation.
Oui, parce que de toute façon, la colonisation, elle ne s'est pas arrêtée avec les indépendances nationales. C'est une des choses importantes quand même qu'il faut... dire un moment ou un autre, la France-Afrique, bah pardon, mais c'est la colonisation. Donc les indépendances nationales n'ont pas arrêté, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Parce que la propagande va dans ce sens-là, la propagande dominante va dans ce sens-là. Bah, la colonisation, ça continue encore aujourd'hui. Parce que les anciens colonisés et les anciennes colonisées n'ont jamais obtenu réparation, n'ont jamais obtenu justice. Donc à partir du moment où il n'y a pas des réparations aux colonisés, bah ouais, les conditions de vie générale ne changent pas. Et les systèmes d'oppression n'évoluent pas.
Oui, oui, et la fracture coloniale se maintient en France.
Oui.
Et ce qui explique, par exemple, que une grande partie des personnes racisées se retrouvent dans la fraction la plus dominée, la plus exploitée du prolétariat.
Bah, évidemment que c'est un lien avec ça. Oui, oui, bah oui. Après, bon, le concept de personne racisée, il faut que tu le définisses, parce que qu'est-ce que c'est une personne racisée ? Dis-le-moi.
Alors, disons que, évidemment, toutes les personnes sont racialisées, ouais. Mais disons que, en général, ce sont les dominants qui racialisent les autres,
ouais,
qui
ouais,
se
ouais.
définissent comme majoritaires et qui définissent les autres comme minoritaires. Je fais référence un petit peu à Colette Guillaumin là-dessus, du coup.
Moi, ce qui m'intéresse, c'était de parler des colonisés. Moi, je préfère utiliser ce terme-là qui me paraît un peu peu plus précis parce que, bon, voilà, il fait référence à des structures très précises, même si le racisme est une structure, un système bien, bien concret. Bon,
voilà, surtout, c'est le fait que tu te concentres quand même beaucoup sur, sur les crimes contre les travailleurs arabes.
Oui, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, l'Empire colonial est allé extorquer diverses populations. Après, la métropole fait partie de l'Empire, il faut que les gens ne l'oublient pas non plus.
Bien sûr.
Et ne se sentent surtout pas immunisés, y compris contre les crimes policiers, parce que ça ne touche pas que les autres là-bas qui habitent très loin d'ici.
Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr que la colonisation, d'une part, elle ne s'arrête pas en 1962 et elle est aussi dans la métropole, ouais, comme on le voit avec, par exemple, le massacre raciste du 17 octobre 1961.
Et puis au-delà de ça, c'est pas forcément qu'un problème d'immigrés, hein, les violences policières. Encore une fois, ça peut toucher des personnes blondes aux yeux bleus, blanches européennes, etc., à partir du moment où elles sont considérées comme ennemies de l'État. Subversives, ou tout simplement trop pauvres pour avoir le droit à la vie, boum. Ce que je veux dire, c'est pas forcément qu'un problème d'immigration.
En fait, disons que la différence, peut-être, c'est que quand on est arabe ou colonisé, on est d'office un ennemi intérieur, oui, alors que quand on est blond aux yeux bleus, c'est seulement quand on est anarchiste.
Oui, encore. Non, enfin, d'une certaine façon, oui. Je ne sais pas si c'est vrai.
Une formule ramassée, disons. Et on peut inclure aussi peut-être effectivement les prolétaires les plus démunis, les prolétaires blancs les plus démunis
également. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que toutes ces histoires de colonisation et tout ça, c'est tellement passé aux oubliettes, tellement réprimé. Tu vois, même l'enseignement du fait colonial en France, il est tellement inexistant que, tu vois, même là, on s'embrouille un petit peu. On ne sait pas trop qui, comment, pourquoi. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où un individu va être considéré comme faisant partie du corps national, il va être même, de fait, on va l'inclure dans la machine à tuer, dans la machine à tuer raciste. Tu vois ce que je veux dire? Ça va même pas. Ça va le d'office, ça va le placer dans ce camp-là, quoi. Donc voilà, c'est important de préciser cela.
Merci de nous avoir parlé du coup des crimes racistes en France dans les années 70. On invite vraiment du coup nos auditeurs et nos auditrices à lire ton article sur les crimes racistes, parce que là du coup il y a effectivement, tu développes un petit peu différents cas qui sont intéressants. On trouve des choses assez hallucinantes dont on a donné un petit extrait dans l'émission. Mais en tout cas on espère que nos auditeurs et nos auditrices auront trouver ça intéressant et auront envie de se pencher sur le sujet, et notamment en commençant par ton article et puis différents ouvrages qu'on mettra sur notre site.
Ouais, puis il y a un documentaire aussi qui s'appelle Marseille 73, la ratonnade oubliée, qui peut aiguiller un peu la population sur le sujet.
Donc en tout cas merci Hakim, et puis on se retrouvera pour une prochaine émission sur des sujets analogues.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas, si la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.